Maintenant, on retourne côté système atmosphérique avec Béatrice Marticorena, pardon, qui va nous parler des méningites de poussière et climat du Sahel. Alors, je vous signale que le travail de Béatrice figure dans une plaquette que vous avez à l'entrée, qui est sur l'Afrique de l'Ouest, où on a essayé de faire quelque chose un peu moins spécialisé. Bon, l'exercice est très compliqué, mais enfin, d'essayer de faire une synthèse là-dedans de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et entre autres. Ce que va nous raconter Béatrice maintenant. Donc tu as une demi-heure dans 20 minutes, je te dis 13:05, je fais ça et puis après voilà, tu finis puis allez les questions.
Là, ça va, ça fonctionne. Donc, effectivement, j'ai coordonné ce projet qui s'appelle ADSEM, qui concernait l'étude de l'impact des aérosols désertiques du climat sur les épidémies de méningite. Donc, avec un certain nombre de participants à la fois du GIS et puis un certain nombre de participants de laboratoires qui ne font pas officiellement partie du GIS, donc en particulier le CRC et puis des collègues épidémiologistes de Montpellier. Et je précise qu'une grande partie des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de la thèse d'Adrien Droubet, qui est également dans la salle. Alors, comme je sais qu'il y a, comme moi, des gens qui ne sont pas spécialistes de la santé, je commence par quelque chose d'assez élémentaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la méningite? C'est donc une inflammation des méninges. Donc, les méninges, ce sont les enveloppes qui protègent le système nerveux. Cette infection est transmise par voie aérienne, on va dire, et les épidémies de méningite sont essentiellement liées à une bactérie qui est reportée ici. Donc si on regarde comment ces épidémies de méningite se répartissent, en fait, on voit qu'il y a une très forte concentration de ces méningites dans la zone sahélienne, qui a été qualifiée donc, de ceinture de la méningite, et donc dans une région qui... coïncide plus ou moins avec des cumuls de précipitations qui varient entre 300 et 1000 mm par an, donc une bonne superposition avec un climat sahélien. Donc ces épidémies, on les observe pendant la saison sèche, donc de février à avril. Elles impliquent différents sérogroupes, le sérogroupe majoritaire et le groupe A, mais récemment, il y a eu quelques épidémies avec deux autres sérogroupes, notamment X et W135. Donc chaque année, 25 à 250 000 cas sont recensés, donc c'est vraiment un phénomène important. Une maladie qui touche essentiellement des enfants de moins de 15 ans. Un taux de mortalité vraiment pas négligeable, qui est de l'ordre du 10%. Et pour les survivants, des séquelles potentiellement très importantes liées à ces épidémies. Donc ces épidémies ont également un caractère saisonnier extrêmement marqué, donc c'est ce qui est illustré par cette figure, qui présente donc l'évolution de l'incidence en fonction des mois de l'année sur le Burkina Faso. Donc ces épidémies, on les retrouve en gros de janvier à mai, avec un maximum aux alentours du mois de mars, aussi bien pour les années épidémiques, donc avec des fortes incidences, que pendant les années non épidémiques. Donc ces épidémies, elles sont localisées dans une zone où avec un climat très particulier, le climat sahélien, une saisonnalité également très marquée. Donc on peut s'interroger sur le phasage entre la saisonnalité de ces épidémies et la saisonnalité des conditions climatiques au Sahel. Donc la partie du haut reproduit le calendrier de ces épidémies, donc qui démarre au premier trimestre de l'année, avec un maximum aux alentours de la semaine 13, et puis quasiment plus de méningite au cours du troisième trimestre de l'année. Donc, pendant le premier trimestre de l'année, le Sahel est soumis à des conditions climatiques qui correspondent en fait à un régime d'harmattan, donc c'est un flux d'air chaud, sec, qui vient du Sahara, et avec un front intertropical qui est situé très au sud, près du golfe de Guinée. Une situation très contrastée au troisième trimestre où la mousson s'est installée, donc un flux de sud-ouest qui apporte de l'humidité, qui apporte les précipitations, et puis ce front intertropical qui est situé très au nord, qui fait fait que tout le Sahel est sous ce régime de mousson. Et donc, dans la phase intermédiaire, où on passe du maximum à la diminution de ces épidémies, on est dans une zone de transition qui correspond au déplacement de ce front intertropical et puis des conditions donc, de température très élevées et de vent relativement faible. Au cours de la saison sèche, et en particulier au premier trimestre, c'est également la saison où on observe les événements de poussière les plus intenses. Et ces événements de poussière, donc illustrés ici sur ces images météosat, ont souvent une extension continentale. Donc vous voyez ici le front de poussière qui s'avance depuis le Sahara vers le Sahel. Et donc ce n'est pas un événement exceptionnel, ça arrive quasiment tous les ans, au cours du premier trimestre de l'année. Alors, quel est le lien entre les méningites, le climat et les poussières? Donc, les hypothèses qui ont été émises pour expliquer ce lien, la première est liée au fait que donc serait un lien causal, est liée au fait que l'air chaud, sec, dans ce régime d'Harmattan, contenant des grandes quantités de poussière, irriterait les muqueuses et faciliterait le passage de la méningite dans le système sanguin et ensuite pour... déclencher cette maladie. Donc c'est plutôt sur cette hypothèse qu'on travaille, mais une autre relation possible, c'est le fait que dans des conditions climatiques aussi sévères, on peut avoir un confinement des populations à l'intérieur et une meilleure transmission de la maladie du fait d'une plus grande proximité des personnes. Donc on est plutôt sur cette deuxième hypothèse du fait que l'effet irritant de ces conditions climatiques et de ces aérosols désertiques pourrait favoriser le déclenchement et donc le déclenchement de ces épidémies. Donc cette hypothèse, elle est également celle qui a été retenue pour l'étude de Martini et Capello. Donc cette figure présente les anomalies d'occurrence de méningite au Niger sur la période 2004-2009, donc on retrouve ce que je vous disais, donc un maximum de ces épidémies au premier trimestre et ensuite une diminution très importante lorsqu'on est en saison de mousson. En fait, si on superpose donc à ces anomalies de méningite les anomalies d'humidité, on voit bien qu'effectivement l'augmentation d'humidité coïncide avec la disparition de ces épidémies, donc un effet très négatif sur les méningites. Et à l'inverse, si on regarde l'évolution des anomalies des contenus en poussière, on voit qu'on a un très bon phasage entre l'augmentation des contenus atmosphériques en poussière et l'augmentation des épidémies de méningites à l'échelle du pays. Ces augmentations sont déphasées, on a un décalage de l'ordre de 0 à 2 semaines entre l'occurrence des poussières et l'occurrence des méningites, avec un coefficient de corrélation ici qui est très bon à l'échelle du pays. Et donc ce décalage en temps est également très cohérent avec le temps d'incubation de la bactérie qui est estimé à une dizaine de jours, donc, qui va dans le sens de l'hypothèse de cet effet irritant de ces conditions climatiques. Donc les objectifs qu'on s'est fixés dans le projet étaient donc d'évaluer, de se poser la question de savoir est-ce que la saisonnalité des épidémies est lié aux conditions atmosphériques et est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, prévoir l'influence de ces conditions sur les épidémies de méningite au Sahel. Donc, dans ce projet, on a utilisé une série de données épidémiologiques qui ont été compilées donc par une collègue de l'université de Lancaster qui correspondent aux relevés hebdomadaires de l'OMS et ces relevés ont été recensés par district, donc dans les trois pays sur lesquels s'est focalisée l'étude et qui sont les pays les plus affectés par la méningite, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc la période sur laquelle on a travaillé avec cette série, c'est la période 88 à 2008. Donc vous avez ici une illustration de la variation de l'incidence moyenne en noir et puis par district en gris, et on voit qu'on a effectivement une très grande variabilité de cette incidence avec des années très épidémique, comme ici 95, et puis des années avec très peu de cas observés. Sur ces données, on note également une certaine variabilité dans la saisonnalité des épidémies, avec en particulier une occurrence de ces épidémies, enfin, du maximum des épidémies, plus précoce au Burkina Faso, ici dans le sud, qu'au Niger et au Mali, où le maximum est plutôt observé en avril, donc en semaine 15. Alors pour ce qui concerne les données atmosphériques, donc on a utilisé comme données climatiques les réanalyses ERA intérim du Centre européen de prévision à moyen terme, et les paramètres retenus sont la température, l'humidité relative, la direction et la vitesse du vent sur la période correspondant aux données épidémiologiques. En ce qui concerne les aérosols, donc les poussières, on a plusieurs types d'observations possibles pour renseigner le contenu atmosphérique de ces aérosols, donc les concentrations de surface, le contenu intégré sur la verticale, donc, qu'on appelle en fait l'épaisseur optique en aérosol, et puis on a un certain nombre d'indicateurs satellites qui nous renseignent sur la présence d'aérosols, donc en particulier des indices d'aérosols établis dans le domaine UV, et puis un indice également dans l'infrarouge à partir du satellite Météosat. Donc pour ce qui est des concentrations de surface, on avait dans le cadre du projet international AMA implanté 3 stations de mesure dédiées au suivi des aérosols désertiques en Afrique. Donc on a ces 3 stations qui nous ont permis d'avoir des séries de mesures de concentration en particules. En ce qui concerne l'épaisseur optique en aérosol, le réseau international Aéronet et sa composante française Photon nous permet de bénéficier de 10 stations de mesure de cette épaisseur optique en aérosol. Et ces stations fonctionnent en Afrique de l'Ouest depuis bien plus de 10 ans, je pense 15 ans maintenant. Pour ce qui concerne les indicateurs satellites, en fait, donc les capteurs TOMS et leur successeur, donc le capteur OMI, permettent d'avoir une couverture régionale, et ces capteurs TOMS en fait ont été lancés dans les années 70-80 et permettent d'avoir des séries temporelles très longues. Alors quel est le problème avec ces données? Donc, vous avez ici un petit schéma d'une station de mesure avec une couche l'atmosphère et puis des particules contenues dans l'atmosphère. Donc si on s'intéresse à ce qui va affecter la population, naturellement, la meilleure mesure que l'on peut faire, c'est donc la concentration de surface de ces poussières, donc PM pour particulate matter. Mais donc, comme je vous l'ai dit, on a simplement 3 stations de mesure à notre disposition. Donc l'épaisseur optique en aérosol, elle, c'est une mesure qui est faite depuis le sol en visant le soleil, et on mesure l'extinction du rayonnement lié à la présence de ces aérosols. Et donc c'est le contenu intégré sur ce trajet en aérosol sur toute l'atmosphère. Et puis en ce qui concerne le produit satellite que j'ai mentionné, donc là aussi, donc là c'est l'inverse, hein, c'est le signal émis par la surface et l'atmosphère qui est renvoyé au satellite, donc qui contient un signal lié à la surface, un signal lié à l'atmosphère qu'il faut arriver à démêler. Et ce démêlage, on va dire, est fait au moyen de cet indicateur de présence d'aérosols absorbants, qui est donc un indicateur semi-quantitatif. Donc on a 3 grandeurs ici qui ne sont pas équivalentes. Et donc un des travaux qu'on a fait dans le cadre du projet, c'est d'évaluer dans quelle mesure on pouvait utiliser ces différents paramètres pour représenter la concentration de surface. Donc ici, ce qui est représenté, c'est la corrélation pour une station où on a des mesures colocalisées entre l'épaisseur optique en aérosol et la concentration de surface en particules. Donc si on prend l'ensemble des données, on a une corrélation qui n'est pas très très bonne. Et donc ce qu'on a fait ici, c'est de trier les observations sur la base des conditions météorologiques qui prévalent. Donc c'est ce qui s'appelle un type de temps. Donc c'est une méthode statistique qui permet de différencier ces types de temps, et de, si on re-regarde les relations entre épaisseur optique et concentration en regardant séparément les différents types de temps, donc ici on a 2 types de temps qui correspondent à la transition du flux d'Harmattan vers le système de Mousson où les corrélations ne sont pas très bonnes, et puis on a 3 types de temps qui sont typiques des conditions d'Harmattan où on a une bien meilleure relation entre l'épaisseur optique en aérosol et la concentration de surface. Donc ces corrélations sont bonnes, par contre les pentes sont différentes. Donc ici vous avez les différents types de temps et puis les pentes obtenues par ces régressions linéaires. Donc ça veut dire que pour une épaisseur optique donnée, suivant le contexte météorologique, la concentration de surface correspondante n'est pas du tout la même et elle peut varier du simple au double selon qu'on est dans une période de transition de mousson ou qu'on est dans un régime d'Harmattan bien établi. Donc il y a vraiment des précautions à prendre si l'on utilise l'épaisseur optique à la place des concentrations. Une conséquence de ces différences, c'est que si on regarde des séries temporelles de concentration, ici en rouge, des séries temporelles d'épaisseur optique mesurées depuis le sol, et puis les séries temporelles de l'indicateur satellite, en fait, on a un problème de phasage. On a des tendances saisonnières qui sont assez similaires, avec des maximums en saison sèche, mais des maximums qui sont décalés. Les maximums de concentration de surface sont observés plus tôt dans la saison sèche que les maximums observés par satellite. Donc ces maximums ne sont pas phasés. Donc un travail qui a été fait dans le cadre du projet, ça a été donc de transformer ces indicateurs satellites en les corrigeant d'un biais saisonnier moyen établi par rapport aux concentrations de surface pour produire une série temporelle continue de cet indice d'aérosol qui est donc appelé ici un indice d'aérosol transformé pour reproduire au mieux la variabilité des concentrations de surface. Donc après ce travail, on dispose donc d'une base de données qui rassemble les données d'incidence de méningite, les paramètres climatiques, température, humidité, vitesse et direction du vent, et puis cet indicateur quantitatif d'aérosol désertique. Ces données sont renseignées par district et peuvent être ensuite recalculées par région ou par pays, et sur la période 1997 à 2008. Et l'ensemble de ces données ont été donc agrégées à l'échelle hebdomadaire, qui est l'échelle à laquelle sont disponibles les données d'incidence, et ensuite, selon les travaux, agrégées par district, par région ou par pays. Donc quelques résultats maintenant sur l'étude du lien entre méningite, climat et poussière. Donc un premier travail qui a été mené à partir du moment où ces séries de données ont été mises au point a été de regarder le décalage temporel qu'il existe entre les épidémies de méningite et puis les différents paramètres climatiques et les aérosols. Donc ce travail a été réalisé en faisant une analyse par ondelette. Donc c'est une méthode statistique qui permet de quantifier les différences de phase entre différents signaux. Donc là, en l'occurrence, les séries temporelles d'aérosols, de paramètres climatiques, donc humidité, direction du vent et température. Donc le principal résultat, c'est qu'il y a un décalage de phase complet avec la plupart des paramètres climatiques et par contre un phasage avec les aérosols, sous réserve qu'on tienne compte d'un décalage de phase de 1 à 2 semaines. Donc on voit qu'il y a une bonne corrélation entre la dynamique annuelle des épidémies de méningite et puis la dynamique des aérosols désertiques, avec un décalage de 1 à 2 semaines, encore une fois cohérent avec le délai d'incubation de la maladie. Donc ce travail a été fait à l'échelle des districts et seulement pour le Niger. Le deuxième travail qui a été fait a été d'essayer de trouver des spécificités du point de vue climatique et aérosol pour les années épidémiques. Donc l'idée, c'était de voir est-ce que pendant les années épidémiques, il y a vraiment des conditions atmosphériques particulières qui ont pu favoriser ces épidémies. Donc le travail a été basé sur une analyse statistique, donc une technique qui s'appelle l'analyse en composantes principales. Dans un premier temps, cette analyse est faite seulement sur les variables atmosphériques, donc climat et aérosol, et dans un deuxième temps, on intègre dans l'analyse l'incidence des méningites. Donc le résultat concret de cette analyse, donc cette technique en fait crée des nouvelles variables qui rassemblent les variables initiales rentrées dans ce système. Donc le résultat de cette analyse en composantes principales peut être traduit par deux composantes, donc la composante 1 et la composante 2, qui traduisent 72% de la variabilité des observations. Donc ces observations sont donc la vitesse du vent ici, l'indice d'aérosol, la température et l'humidité. Donc on voit que ces composantes principales s'organisent autour de deux modes. Un mode qui est essentiellement structuré par des variables climatiques, donc la vitesse du vent et sa direction, et puis la température et l'humidité. Et un deuxième mode qui se structure autour de l'indice d'aérosol et de la température et de l'humidité. En fait, si on projette les observations individuelles sur ces axes et qu'on regarde la façon dont elles se répartissent dans le temps, donc le code couleur ici correspond à la semaine, correspond aux différentes observations, en fait, on voit que cette projection suit un calendrier. Donc les couleurs ici correspondent au passage depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai, ce qui renforce l'interprétation de ces composantes, puisque du point de vue du climat, on passe donc d'une situation typique d'Harmattan vers une situation qui évolue suite au passage du front intertropical. Et pour ce qui concerne le deuxième axe, on a ici les observations correspondant au maximum d'empoussièrement et puis les situations extrêmes où les concentrations en poussière diminuent. Donc, de façon plus synthétique, la deuxième phase de cette analyse en composantes principales a intégré donc, non seulement les paramètres climatiques, mais également l'incidence. Donc, lorsque cette analyse est appliquée à l'ensemble des années disponibles, on a donc trois composantes principales, toujours cette composante climat, un mode poussière et finalement un mode incidence qui est structuré essentiellement par l'incidence des méningites de façon isolée par rapport, relativement isolée par rapport aux autres paramètres. Lorsqu'on restreint cette analyse aux années épidémiques, on voit que la contribution de ce mode de l'incidence à ce mode diminue et par contre on retrouve cette incidence dans les deux autres composantes et en particulier en association avec la deuxième composante principale qui intègre donc les aérosols. Excusez-moi, l'animation suit. Donc une forte corrélation avec l'indice d'aérosol. Donc on voit qu'une des spécificités de ces années épidémiques, c'est clairement l'importance des poussières pendant ces années. Donc le dernier volet qui a été développé dans le projet a été de chercher à modéliser l'incidence en fonction des variables climatiques. Donc la méthode statistique utilisée, c'est une méthode de régression linéaire multiple. Donc dans un premier temps, cette méthode a permis d'isoler les variables climatiques qui avaient le plus grand poids dans cette régression. Donc ces variables sont la température de la semaine précédente et l'indice d'aérosol. Et lorsque ce modèle est appliqué à l'échelle des districts et des régions, il explique un tiers de la variabilité de l'incidence, ce qui est significatif par rapport aux autres études qui ont cherché à quantifier l'impact de différentes variables climatiques sur ces épidémies. L'intérêt de ce modèle, c'est que la variabilité spatiale des contenus en poussière et de la température permet de reproduire également la variabilité spatiale de l'incidence des méningites. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc c'est l'incidence modélisée avec ce modèle statistique. Donc on voit donc les données ont ensuite été reclassifiées en trois classes qui se distinguent en termes d'occurrence du maximum et d'intensité des épidémies. Excusez-moi. Avec en particulier ici en marron, vous avez une classe qui correspond à une très forte intensité et puis un maximum entre les semaines 12 à 16. Et ici, une forte intensité et un démarrage assez précoce pour la classe localisée au Burkina Faso, alors que la première, on l'a retrouvée au Niger, ce qui correspond à ce qu'on avait constaté sur les données épidémiologiques de départ, donc avec des différences de maximum. Un maximum plus précoce au Burkina Faso qu'au Niger et au Mali. Donc un accord dans ces différences de saisonnalité par rapport aux observations. Donc pour finir, on peut maintenant regarder comment ce modèle reproduit temporellement l'évolution des épidémies à l'échelle du pays. Donc vous avez en bleu l'incidence modélisée et en vert les incidences observées au Niger et au Mali. Donc on voit que les courbes bleues se superposent relativement bien avec les vertes, donc le modèle ayant été appliqué seulement pour les années épidémiques. Et donc, si on restreint la comparaison au-delà du seuil épidémique, on a une corrélation entre l'incidence modélisée et observée de 0,69. Dernier point, on peut également regarder la façon dont ce modèle reproduit les dates de dépassement du seuil épidémique. Donc ici, vous avez la valeur observée du dépassement du seuil et ici, la valeur modélisée. Et on a également un très bon accord entre les valeurs modélisées et observées. Donc il ne faut pas faire des modifications d'animation le soir, donc celle-là ne marche pas bien. Donc en conclusion, quelques questions qui étaient vraiment des éléments qui ont motivé cette étude. Un premier point qui peut paraître un peu technique, qui est-ce qu'on peut utiliser des produits satellites aérosols pour étudier leur impact sur la santé et en particulier reproduire les concentrations de surface. Donc la conclusion de cette étude, c'est que oui, effectivement, on peut le faire, mais avec des précautions, parce que l'épaisseur optique telle qu'elle est reproduite par les satellites n'est pas exactement la concentration de surface. Il y a des variations liées à la répartition verticale des aérosols dont il faut tenir compte si on veut correctement les utiliser. La deuxième question était de savoir est-ce que la saisonnalité des épidémies peut être liée aux conditions atmosphériques ? Donc le modèle qui a été développé montre que les variations spatiales et temporelles des conditions climatiques peuvent expliquer en partie des variations observées dans le démarrage de ces épidémies et dans les variations spatiales et temporelles de leur intensité. Pour finir, est-ce qu'on peut prévoir l'influence des conditions atmosphériques sur les épidémies ? Donc là aussi, pour les années épidémiques sur les séries de données utilisées ici, on a un tiers de la variabilité qui est reproduite par ce modèle qui intègre les variables climatiques et qui permet également de reproduire les dates de dépassement de seuil. Donc j'ai mis prévoir entre guillemets, parce que là c'est un verbe prévoir plus au sens statistique, on arrive effectivement à le calculer, il ne s'agit pas effectivement de le prévoir à l'avance, parce que là effectivement ça nécessiterait d'être capable de savoir, soit de connaître en temps réel, ou de prévoir de façon correcte les concentrations de poussière et les températures pour aller éventuellement vers un système d'alerte précoce. Je vous remercie pour votre attention.
Des questions ? Des commentaires ? Le fait que ça démarre avant au Burkina, en fait, c'est pas intuitif par rapport aux poussières, puisque normalement elles arrivent plutôt du nord. Donc j'imagine qu'on devrait avoir plutôt le nord d'abord avant le sud. Donc c'est une question de température ou c'est autre chose ?
Oui, je pense que oui. Parce que dans le modèle, effectivement, le poids le plus fort en fait, est sur la température et pas sur les aérosols.
À propos des deux hypothèses soutenant donc deux modes de transmission différents, hein. Première hypothèse, ce sont les poussières, les grains de sable qui transportent la bactérie et que les gens acquièrent. Mais aujourd'hui, on sait que ce type de bactérie ne résiste dans l'environnement que 2, 3 ou 4 heures, versus...
C'est pas du tout une hypothèse qu'on a retenue.
Non, versus la seconde.
Oui.
Et donc, du coup, les grains de poussière viennent abraser l'épithélium et ouvrir des voies sanguines pour la bactérie qui est résidente à l'intérieur de la sphère nasopharyngée humaine. Donc, c'est deux modes de transmission très différents. Donc, moi, je pense aux Nigériens, puis aux services de santé au Niger, au Burkina Faso. Donc, est-ce qu'on a avancé sur ces deux voies de transmission, à la fois dans votre programme ou dans les programmes internationaux ? Qu'est-ce que l'on
en
sait ? Parce que les moyens de protection, hein, qu'on appelle prophylactiques, peuvent être différents. Enfin.
Alors, quand on a démarré l'élaboration du projet, au départ, a été fait avec Isabelle Jeanne, qui travaillait au CERMES au Niger et qui s'intéressait à ça depuis des années. Et clairement, la première hypothèse donc, du transport de la bactérie par les poussières n'a pas été... retenue comme pertinente. Bon, dans la littérature, on ne retrouve plus beaucoup cette hypothèse. Par contre, il y a un élément qui se rajoute maintenant qui serait lié à la composition des poussières et en particulier la présence de fer qui pourrait aussi induire des mécanismes... Non, éventuellement la solubilisation du fer contenu dans les particules. Qui pourrait aussi induire des mécanismes qui favoriseraient. Voilà. Je n'en sais pas plus que ça. Mais clairement, enfin, c'est une analyse statistique qui ne donne pas de réponse non ambiguë sur des liens de cause à effet. Donc simplement, les résultats qu'on a sont en faveur de cette hypothèse plutôt d'irritation préalable. Ça ne fait pas dire plus que ce qu'on peut dire.
Pour ajouter quelque chose sur l'hypothèse du transport sur les poussières, on pensait que la bactérie ne résistait pas et donc il n'y avait pas de transmission. Mais l'année dernière, j'ai rencontré un militaire qui travaillait en Afghanistan, qui a fait des collections de poussières. Il a retrouvé tout plein de trucs qu'il ne connaissait pas. Et dedans, il y avait la méningite. Et il a dit il y a comme une carapace qui se forme autour des poussières et la méningite reste dedans et elle est capable de résister et d'être transportée. Donc c'était une nouvelle étude qui a été faite là-bas. montrant qu'il y avait la possibilité à la méningite de se maintenir sur la poussière et de
Oui, après, si je peux me permettre, les fortes concentrations qu'on observe en saison sèche, c'est du transport d'aérosols sahariens. Donc ça veut dire qu'il faudrait imaginer qu'il y ait dans le Sahara un réservoir de...
De méningite.
Je ne sais pas.
En tout cas, en Afghanistan,
pas, mais...
il l'a trouvé et elle était présente là-bas. Quoi. Donc là, c'est encore une autre hypothèse qui revient maintenant sur...
Finalement, que dans certaines poussières du désert, il peut y avoir ces bactéries méningocoques, on dit, mais c'est quelques particules ici ou là, à des doses qui ne seront jamais des doses suffisantes pour engendrer le feu. Voilà. Ici, vous avez des tas de virus ou de bactéries, mais c'est pour
ça. Je rejoins les conclusions de Jean-François, et puis surtout la question qui se pose, c'est que les poussières qui ont été mesurées là, c'est, elles viennent d'où et elles ont été transportées à quelle altitude? Parce que ce que certains médecins ont dit, c'est que par télédétection, les poussières qu'on voit, elles sont très très hautes. Et c'est celle-là dont on n'est pas sûr que là, la bactérie, elle puisse résister ni en temps, ni au froid qui fait là-haut. Là, les poussières en question qui ont été, c'est des nuages de poussière, mais qui étaient pas très hautes. Et donc, toute la question, c'est... Donc, on en revient, en gros, à ce que je vais un petit peu présenter après, c'est tous les mécanismes. La première chose qu'on doit comprendre dans toutes ces maladies, c'est ces fameux mécanismes. Et donc, effectivement, cette hypothèse aujourd'hui de transport, elle est enlevée. Et les médecins, ils préfèrent effectivement cette hypothèse de c'est abrasif. Et en fait, la bactérie, elle est là. Et les poussières, elles viennent plutôt erronées.
Favorisées, en fait.
Favorisées. Par contre, moi, j'ai une question. On a vu, donc ça explique un tiers. Est-ce que les médecins, les biologistes, toujours dans les mécanismes, alors c'est peut-être pas à vous qui... Est-ce qu'on s'interroge, est-ce qu'on continue à chercher ce qui explique, les autres causes qui pourraient expliquer, puisque, en gros, ça explique une partie, voilà. Qu'est-ce qui ferait que...
Alors oui, clairement, je pense qu'il y a des épidémiologistes qui travaillent sur les épidémies de méningite et qui ne regardent pas l'aspect climatique. Il y a énormément d'autres facteurs, notamment sociétaux. Comment les mouvements de population arrivent à générer la distribution à partir d'un foyer initial. Donc il y a énormément effectivement de facteurs sociétaux qui seraient les premiers facteurs explicatifs pour ces méningites, effectivement. Sans compter tous les aspects éventuellement de vaccination, de résistance des populations, dont on ne tient pas du tout compte ici dans cette étude.
J'ai une question, une remarque par rapport à l'Afrique de l'Est, parce que l'Harmattan, il souffle du Sahara vers les terres, il est très fort sur le côté ouest. Sur le côté est, est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce qui se passe? Est-ce que ça a été étudié un petit peu plus en détail? Parce que quand vous avez montré votre première carte, ça a l'air d'être, l'incidence a l'air forte sur toute la bande soudano-sahélienne, mais la dynamique que vous avez sur l'est est un peu différente de la dynamique de l'ouest.
La dynamique est différente. Je ne suis pas persuadée que les contenus en poussière...
Non, ce sera, sera sec et désertique, les poussières, mais il y aura moins de...
Ce transparent qui avait été établi par Joe Prospero à partir de ses données aérosols. Et pour lui, il y a aussi une ceinture des poussières qui coïncide assez bien. Donc, effectivement, un petit peu moins d'aérosols à l'est, mais ça dépend de la saison. Je pense qu'en mai, un peu moins. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que là, sur les parties, je ne sais pas si on s'en rend toujours compte, mais les concentrations qu'on mesure, c'est des quantités faramineuses. Si on regarde par rapport aux normes de qualité de l'air qu'on a en Europe, donc je crois que la norme, c'est 40 microgrammes par mètre cube. Donc ça, c'est les concentrations, c'est des moyennes journalières. Donc à part pendant les mois de mousson où on a des valeurs qui sont entre 50 et 10, on est tout le temps au-dessus des normes européennes de qualité de l'air sur les particules. Et on a des moyennes journalières à 1000 microgrammes par mètre cube. Donc même si on a moins sur la partie est, je pense que s'ils arrivent à 100, 500... Ça suffit largement pour avoir un effet, j'imagine, équivalent.
C'est justement une question pour la fin, parce que dire qu'on ne peut pas faire de prévision. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui travaillent pour essayer de modéliser un peu ces régimes d'Harmattan
Oui, bien sûr. Il y a énormément de modèles qui se développent, donc des modèles d'aérosols, alors, qui sont développés essentiellement pour des... Au départ, pour des considérations climatiques, pour regarder l'effet radiatif de ces aérosols. De plus en plus, des modèles régionaux pour des applications à la qualité de l'air. Et puis, une communauté un peu spécifique sur les aérosols désertiques, parce que la dynamique est vraiment très particulière, très forte. Il y a une très forte variabilité, des concentrations ou des épaisseurs optiques, c'est les plus fortes qu'on puisse mesurer. Et puis, c'est complètement piloté par la météo. Donc, c'est pas chaotique, mais c'est vraiment très difficile à reproduire. Donc, il y a différents modèles qui ont été... Donc, c'est un avantage et un inconvénient, que ce soit la météo, parce que si on a un bon modèle météo, on peut espérer bien reproduire ces panaches. Et donc, il y a du coup pas mal de modèles de prévision météorologique qui ont intégré les aérosols désertiques et qui font des prévisions. Leur principale limite actuellement, c'est l'aspect quantitatif. La plupart sont recalés sur les épaisseurs optiques, de façon plus ou moins calée, voilà. Et de ce fait, quand on regarde comment ils reproduisent les concentrations, ça peut varier de façon très importante. Parce que ce n'est pas la même fraction granulométrique qui joue sur l'épaisseur optique et qui fait les concentrations les plus fortes. Voilà. Mais donc, il y a plusieurs modèles, notamment le modèle mis au point par Carlos Pérez, le modèle DREAM, mais ça avait commencé déjà avec le modèle de la NEVI, qui est un des premiers modèles à avoir fait des prévisions. En termes de forme de panache, de fait de dire si oui ou non il y a des poussières, ça marche plutôt bien, parce qu'un bon modèle météo peut reproduire ça. La question, après, c'est la quantité.